Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr ou si vous êtes en train de regarder sur YouTube ou ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas contre le fait de se faire répandre partout. Bref, bienvenue dans la case de Seb. Dans quelques instants, on parlera de zombies, on parlera de rock, on parlera d'informatique et on parlera aussi de meurtre, mais avant toute chose, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par chez moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui parle truchement des ondes radiophoniques et vidéo-internétiques, va basculer directement dans vos oreilles les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, on va passer ensemble une heure, mais je ne suis pas tout seul, je suis également en compagnie de Bruno. Salut Bruno.
Salut tout le monde.
Et je suis en compagnie de Florence. Ça va Florence?
Ça va très bien, merci, salut.
Voilà, on est sans Fabien qui a décidé de déjà partir en vacances, le petit chanceux. J'aurais bien dit, on espère qu'il pleut un peu, mais il serait content qu'il pleuve, je pense. Donc, bah, passe de bonnes vacances.
S'il est en Finlande, ça va.
Ouais, en Finlande, ça devrait aller. Est-ce que tu peux me repasser l'album, là, juste là? On aura tout à l'heure une interview de Fix qui va nous parler de Digital Bullshit Officer qui parle de, comme son nom l'indique, de Digital Bullshit Officer. Hein. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, la partie centrale. Et puis, on va pouvoir partir directement avec le planning, ma chère Florence, les news, les actualités, que faire en festival s'ils ne sont pas annulés par la canicule?
J'ai pas vu d'informations en ce sens, mais pas de festival dans les Pays de la Loire sur les prochaines semaines. En revanche, okay. Vous allez peut-être partir en vacances prochainement à proximité des festivals dont je vais vous parler. Du 18 au 19 juillet se déroulera le festival BD de Dieppe, en Seine-Maritime, intitulé « Rencontres entre amis, le phylactère et la mer ». Il aura lieu en plein air sur la magnifique pelouse face à l'hôtel Aguado. Plusieurs auteurs sont attendus pour des séances de dédicaces et des moments d'échange. Il y aura une conférence animée par Simona Mogavino intitulée « Comment naît concrètement une BD ?» avec justement toutes les étapes de la création d'une bande dessinée.
Très cool.
Ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans le 9e art. Et l'entrée du festival est gratuite. Le 19 juillet, ça sera la 34e édition du Festival BD de Fontenoy-la-Joûte en Meurthe-et-Moselle. Il y aura des auteurs et des autrices venus de toute la France pour présenter leurs œuvres et échanger avec le public. Il y aura également des ateliers créatifs et pédagogiques, des bouquinistes spécialisés et un concert de musique le dimanche. L'entrée
Parfait.
Sera gratuite aussi. Beaucoup de festivals gratuits en ce moment.
Ah bah c'est très bien. Ça permet de faire des économies pour partir en vacances.
Voilà. Le 26 juillet, c'est le village de Belker dans l'Aude qui accueillera son tout premier festival. Au programme, il y aura des animations très sympathiques, des ateliers et battles de dessin, participation à la réalisation d'une fresque géante et bien sûr, donc toujours des moments d'échange et de dédicaces avec les auteurs et autrices présents. Encore un festival gratuit. Et pour finir, donc les 9 et 10 prochains se tiendra la 10e édition du Forum de la BD de Saint-Rémy de Provence qui aura lieu sur le plateau des Antiques et le site de Glanoum. L'événement a pour objectif de mettre en avant l'Antiquité sous l'angle de la bande dessinée et notamment avec donc la rencontre d'auteurs et autrices ayant réalisé des œuvres sur cette période de l'histoire. Et l'entrée sera gratuite.
Eh ben parfait. quoi dire de plus ?
C'est tout.
C'est déjà pas mal. Je vous donne juste l'info, surtout continuez de penser à vous hydrater quand vous allez dans les festivals, c'est super important. Et voilà, nous on assure là aujourd'hui la dernière émission de la saison dans des conditions climatiques
On a vu pire.
Ouais, on a vu pire mais on est quand même pas mal hein.
Ouais.
Donc voilà. Donc profitez bien, on sera content de prendre des vacances juste après. Moi je vais enchaîner directement avec allez, j'attaque déjà la plus costaque, et puis on parlera d'autres choses après. L'année dernière, j'avais parlé, l'année dernière, ou il y a deux ans, d'un ouvrage qui m'avait particulièrement marqué, qui s'appelait Beneath the Trees Where Nobody Sees, où on suivait une petite oursonne, serial killeuse, dans un tout petit village. J'avais résumé ça avec des termes assez simples, c'était « Le vent dans les saules rencontre Dexter ». Et quelle n'a pas été ma surprise en constatant il y a quelques semaines qu'une suite allait sortir et que j'allais pouvoir retrouver ma petite oursonne tueuse psychopathe préférée. Là, c'est le deuxième ouvrage, ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees, toujours, Rite of Spring, c'est toujours de Patrick Horvath, c'est toujours publié aux éditions Ankama. Et est-ce que cette suite vaut le coup ? Eh ben oui, mais un petit peu mitigée quand même. Pourquoi ? Parce que on n'est pas tout à fait dans la même recette. On suit plus tout à fait les aventures de Samantha dans ses méfaits, hein, puisque on tue pas les gens en étant quelqu'un de gentil, même si on essaie de le faire bien. Mais on va suivre plutôt une jeune femme canard, parce qu'on suit des animaux anthropomorphes, hein, qui est en train d'enquêter sur la disparition de son frère. Ceux qui ont lu le tome 1 comprendront effectivement de qui il s'agit, mais son enquête va l'emmener jusque dans le petit village où vit Samantha. Et Samantha, qui a bien vieilli, puisque ça se passe quelques années après le tome 1, va se réjouir, bien au contraire, de la survenue de cette personne qui enquête sur ce qu'elle a pu faire. Pourquoi ? Ça, je vous laisserai le découvrir. On y retrouve tout le style graphique qui a pu fonctionner auparavant, avec un trait très doux, très mignon, pourtant toujours un peu perturbant, avec des teintes très pâles, pastels, vraiment un côté très atténueux, qui contraste énormément avec les crimes aussi violents qu'on puisse les trouver dans la BD. C'est toujours palpitant de voir comment Samantha peut s'y prendre pour manipuler son monde. Et puis, le jeu du chat et la souris entre cette femme canard dont j'ai perdu le nom et Samantha fonctionne très bien, puisque c'est manipulation sur manipulation. Avec, bien sûr, tout un tas de choses qui va se passer dans ce petit village qui, pourtant, avait réussi à regagner une espèce de tranquillité, mais dont les séquelles des crimes précédents et de tous les malheurs ont plutôt sévi. Pourquoi c'est différent ? Bah parce qu'effectivement on n'est plus dans le même trame de narration, parce qu'on n'est plus dans la découverte, parce que on est quelques années plus tard et qu'il y a une continuité qui est quand même logique, même si la découverte et la violence qu'on pouvait avoir paradoxalement avec le dessin ne choque plus autant puisqu'on l'attend et c'est plus une surprise. Par contre, les événements sont un petit peu plus différents puisqu'on va découvrir aussi un petit peu le passif de notre petite oursonne et de ce qui a pu la mener là où elle en est. Est-ce que c'est la fin de Beneath the Trees ? Pas forcément, puisque la fin est ouverte, même si ça pourrait conclure la saga d'une certaine manière. Mais ça, on verra la suite et je ne me suis pas renseigné pour savoir s'il y avait quelque chose de prévu derrière. Un petit passage sur l'édition, qui est toujours aussi belle, même si on a perdu le vernis sélectif qu'il pouvait y avoir sur la couverture du 1 qui la rendait si jolie. L'ouvrage est toujours très joli, avec un dos toilé, avec un petit signet rouge sang cette fois-ci, alors que de mémoire c'était le dos toilé qui était vert, mais le signet était déjà rouge. Bref, je bug, je ne sais plus. Bref, si vous deviez lire des choses qui vont vous donner des sueurs froides cet été pour vous rafraîchir un peu sur la plage, n'hésitez pas à lire Beneath the Trees, Where Nobody Sees, de Patrick Horvath. C'est Rite of Spring, c'est le tome 2, et c'est publié aux éditions Ankama. T'avais lu le premier, Bruno ? Non.
Non, je n'ai pas lu le premier.
Florence non plus ?
Non plus.
Oh là là, ils suivent même pas mes conseils.
Ouais, mais...
J'espère que chez vous, vous suivez mes conseils de lecture, parce que c'était vraiment une petite pépite, et j'espère que ça continuera très longtemps. Non, pas de manière assez soufflée, mais voilà. Est-ce que tu veux continuer, Bruno? Une petite là tout de suite maintenant.
Ouais, je peux.
Avec laquelle?
Bah, comme on est dans le graphisme animalier,
petite
comme
majorette.
Je trouve qu'on a une sacrée suite dans les idées aujourd'hui, bah oui, on peut parler de The Majorettes tout de suite là, maintenant.
Allez, alors, on t'écoute.
Même si on ne doit jamais juger un livre d'après sa couverture, comme nous l'a rappelé ce bon vieux Baudidley, moi je suis comme tout le monde, une couverture de BD est souvent une invitation à parcourir l'objet ou au contraire à le laisser définitivement fermé. C'est là qu'avoir d'ailleurs un bon libraire s'avère précieux. Bon, quand il s'agit de BD rock, forcément je me pose pas de questions, ça finit directement dans la collecte. Toutefois, s'agissant de The Majorettes, si je n'avais été que fan de rock, j'aurais de toute façon été intrigué par ce jaune pétant, rehaussé d'une pointe de rose et par cette typo en forme de collage, façon lettre anonyme. Évidemment, la référence au chef-d'œuvre fondateur du punk Nevermind the Bollocks des Sex Pistols s'impose. Et quand sur cet arrière-plan mythique se détache en costume de majorette un chat, une chauve-souris, et alors je pense que c'est un chien, mais j'avoue que je suis pas sûr. C'est
pas évident. Laissez-nous vos commentaires dans le chat.
Je suis pas sûr. Mais par élimination, je dirais que c'est un chien. Ou alors c'est une autre forme de chat, mais c'est pas évident. Bref, en tout cas, là, quand on voit ça, donc le chat aux baguettes, la chauve-souris à la basse et le chien peut-être à la guitare, eh bien le what the fuck est de sortie. Alors l'intrigue est à l'avenant et elle est d'ailleurs très bien résumée en quatrième de couverture. Viviane, Neige et Sid, donc Sid c'est la bassiste forcément, et pour le coup c'est ma préférée, sont majorettes de la troupe du collège de Ponet-sur-Mer et vont devoir monter un groupe, trouver des instruments et apprendre à jouer. Et tout ça pour tenter de décrocher le premier prix du concours musical organisé en l'honneur de Darilo, de retour dans sa ville natale, auréolé de sa gloire de pop star. En jeu,
cool.
À ce concours, il y a un billet VIP premium pour le concert de l'enfant du pays. Pour Viviane, c'est une question de vie ou de mort. Sinon, la vengeance de Delphine, la vedette tyrannique du collège, sera terrible. Le tout petit inconvénient de l'entreprise, c'est donc qu'aucune des trois héroïnes ne sait jouer d'un instrument, ni même en possède un. À un mois de l'échéance, si ça c'est pas punk...
Ça fait court.
Alors, le thème de la quête initiatique adolescente sur fond de création d'un groupe de rock n'est certes pas nouveau. Il trouve cependant ici une version très fun, avec quelques rebondissements et l'entrée en scène de personnages secondaires bien amenés, qui rythment impeccablement la narration jusqu'à un dénouement que, bon, d'accord, aucun aurait pu voir venir, mais qui ne gâche en rien le plaisir de lecture et la curiosité de découvrir comment ces trois filles bourrées d'énergie vont s'en sortir pour être capables de jouer une chanson en public pour leur tout premier concert. On ne sera pas déçus. Les références à quelques grands noms de la scène punk rock raviront également les connaisseurs. Sous ses atours de BD humoristique, The Majorettes est une chronique préadolescente avec ce qu'il faut de romance, de crise existentielle, de moments de déception et d'exaltation. Le choix du graphisme animalier qui aurait pu s'avérer casse-gueule apporte ici une vraie touche d'originalité au récit et donne aux protagonistes une personnalité et une expressivité qui les rend d'autant plus attachantes. Le style minimaliste de l'autrice colle parfaitement à l'esprit punk de la BD. C'est à lire absolument si vous aimez le rock en uniforme et les bassistes chauves-souris. Alors, The Majorettes, c'est paru chez La Ville Brûle, donc une maison d'édition que je ne connaissais pas. C'est paru le 5 juin 2026, 152 pages, 20 euros. Et franchement, c'est une agréable surprise.
Eh ben, très très cool. Très très cool en tout cas. Mais ouais, on n'a pas beaucoup de manifestations de gens qui sont capables de nous dire c'est quoi l'animal là, celui-là là, au centre de l'album. Vous allez avoir toute la pause musicale pour nous répondre. On se retrouve juste après avec Fix pour son album Digital Bullshit Officer. Et pour accompagner ta chronique, Bruno, j'ai choisi une chanson. Alors, c'est pas tout à fait des majorettes, c'est pas tout à fait du rock. Ça s'appelle Les Vedettes et la chanson s'appelle Joestar. We'll be right back.
101.5 FM.
Allez, vous êtes toujours sur la case de Seb. Bienvenue toujours dans la case de Seb. Je ne sais plus quoi parler. Je ne sais plus parler. On va dans quelques instants discuter avec Fix sur son album. J'ai perdu, Digital Bullshit Officer. Bonjour Fix.
Bonjour. Enchanté d'être avec vous ce soir.
Eh bien, enchanté également. On va passer une vingtaine, entre 20 et 30 minutes ensemble. On va se basculer plein de petites questions. Ouais. D'abord, une question toute simple. Qui es-tu, Fix ? Enfin, si on peut se tutoyer. Hein.
D'accord.
Je suis parti en cache comme ça. Mais...
Allons-y. Donc moi, je suis un dessinateur de BD, dessinateur de presse. J'ai 48 ans. Je n'habite pas du tout vers Angers ou même dans l'Ouest. Moi, je suis lyonnais d'origine et j'habite en Bourgogne aujourd'hui.
D'accord. Il fait pas trop chaud en Bourgogne en ce moment ?
Si, on a chaud. Mais je crois que vous aussi, non ?
Ouais, en ce moment, c'est un petit peu compliqué partout. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler ? Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière avant Digital Bullshit Officer ? Et puis,
oui,
qu'est-ce qui t'a amené à faire de la BD d'entreprise ? C'est un peu comme ça que je la qualifierais aujourd'hui.
C'est ça. Donc moi, ce que je fais, c'est de la BD humoristique. Je suis toujours sur un angle humoristique. Et effectivement, je suis sur une niche un petit peu particulière qui est la BD d'humour autour du monde du travail, autour du monde de l'entreprise. Donc mes personnages, ça va être des employés, des cadres dans des grosses boîtes, dans des administrations, enfin peu importe.
Pas mal de sociétés de services quand même.
Oui, c'est plutôt orienté service, effectivement. Enfin, c'est la vie des bureaux, quoi. Bon.
Ouais.
Quel que soit le bureau au final, là, j'ai l'impression.
Oui, on les retrouve bien.
Oui, moi j'ai des gens, à la base c'est dans des entreprises privées plutôt ma source d'inspiration, mais j'ai des gens de l'éducation nationale, de l'armée, des hôpitaux qui me disent c'est exactement ça. Donc, voilà. Et donc alors après, en termes de carrière, moi j'ai pas du tout une formation de dessinateur, moi j'ai fait une école de gestion.
Par contre, j'ai toujours dessiné.
Ouais, non, vraiment rien à voir. Et j'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans une start-up et ensuite dans un cabinet de conseil en organisation et en conduite de projet sur Paris.
Ok.
Mais par contre, en parallèle, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin. Je dessine et ça a toujours été un grand plaisir pour moi. Et donc en 2012, je me suis dit, il serait peut-être temps de t'y mettre sérieusement. Donc j'ai passé le pas en quelque sorte et j'ai décidé de quitter ma carrière dans le conseil et qui se passait bien pour me lancer vraiment dans le dessin, me donner la chance de vivre ce rêve de gamin. Et donc depuis 2012, je fais plus que ça. Et j'ai la chance que ça fonctionne bien.
Déjà à cette époque, il y avait le projet de faire une bande dessinée d'humour orientée entreprise ou c'est venu petit à petit ?
Alors, il se trouve que je faisais déjà à l'époque du dessin de presse pour des magazines, alors plutôt orienté à informatique, hein, d'ailleurs informatique d'entreprise justement, pour le monde informatique et pour CIO Magazine, Chief Information Magazine.
Ok.
Donc en fait, j'avais déjà ces personnages, etc.
Oui, il y avait déjà une base, mais c'était pas une carrière de lancer encore.
Alors, j'avais pas encore l'idée d'en faire des bouquins. J'étais vraiment sur un fonctionnement sur des histoires courtes qui tiennent dans une page. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, hein, de toute façon. Parce que je pense que c'est un format. Les formats courts, je pense, sont ce à quoi on est très habitué dans notre époque un peu étrange. Les gens ont de plus en plus de mal à lire des formats longs. Et puis, l'humour, ça fonctionne bien sur les formats courts. Ça a tendance à être plus difficile à vite s'essouffler sur les formats longs. Donc c'est pour ça que je privilégie vraiment les formats courts, les histoires en une page, voire en un dessin type dessin de presse.
Et le fait de taper très juste souvent sur les métiers de l'IT ou des bureaux, c'est par l'expérience professionnelle précédente que tu as pu avoir ?
Oui, c'est une catharsis pour moi, c'est une forme de psychothérapie. Très sérieusement, oui. Moi, j'ai bossé pendant une douzaine d'années dans des grosses boîtes. Et puis, comme j'étais dans un cabinet de conseil, l'avantage de ce genre de métier, c'est que nos clients, ça va être des entreprises très différentes, des services très différents dans les entreprises. Moi, j'ai bossé pour des gens du marketing, pour des gens qui étaient dans les RH, pour des gens qui étaient dans l'informatique, pour toutes sortes de services et de fonctions. Donc, ça m'a donné une bonne culture, une connaissance un peu superficielle, mais suffisante de ces métiers pour pouvoir en parler un petit peu.
Oui, pour voir les différents services et leurs différents fonctionnements, voir leurs différents problèmes récurrents.
Leur sujet, leur manie, leurs obsessions. Et comment les caricaturer, surtout.
Ok. Deux questions qui vont globalement suivre. Hein. Travail en numérique principalement ou travail en traditionnel?
Alors, je suis passé... j'ai commencé à travailler sur papier.
Hein. Ok.
Et je suis passé... Aujourd'hui, très honnêtement, je suis à 99% en numérique.
Ok.
Parce que j'ai basculé en 2017-2018, je travaille sur un iPad maintenant. Et je suis quelqu'un qui aime travailler vite. Et en plus, j'ai un enjeu énorme de travailler vite, un enjeu énorme d'efficacité, parce que je passe une bonne partie de mes journées, enfin, un certain nombre de journées par an, à faire du dessin en direct lors de colloques ou de séminaires ou de conférences. Et dans ces moments-là, pouvoir travailler vite, voir très vite les dessins qui sortent et qui sont propres, c'est vraiment un enjeu important. Donc c'est ça qui m'a fait basculer sur le numérique. Pour quelqu'un de parfaitement paresseux comme moi, pouvoir faire des copier-coller ou des retours arrière,
c'est beaucoup plus simple.
Annuler le dernier trait parce qu'il était pas bon, enfin c'est juste magique.
Et donc,
par contre, le contact du papier me manque un peu.
Ah, c'est... Ouais, j'imagine.
Ouais.
Dans ces colloques-là, c'est déjà des choses... c'est du dessin humoristique qui est fait au fur et à mesure ou c'est... comment ça... Ouais.
Ah oui, c'est toujours... Moi, je fais que du dessin humoristique. Je fais pas de... Il y a des gens qui font ce qu'on va appeler de la facilitation graphique, où on va être sur un dessin qui va être plus pédagogique, qui va plus résumer ce qui s'est dit. Moi, c'est pas mon angle d'attaque. Je considère que j'apporte plus en ayant un traitement humoristique de ce qui est dit. Et donc, ce que je fais en fait dans ces journées, c'est que j'écoute ce qui se raconte, je crayonne au fur et à mesure, et à la fin de la journée, je viens faire une espèce de petite rétrospective dessinée et complètement décalée parce qu'humoristique de ce qui s'est raconté. Donc, il y a ce petit côté rétrospectif, mais c'est quand même avant tout un moment vraiment pour rire. C'est une capsule humoristique. Et donc, je viens présenter des dessins sur scène. Les dessins, on les voit pas se...
Oui, on les voit pas se faire au fur et à mesure, quoi.
Se faire au fur et à mesure, enfin, la plupart du temps, en tout cas, je viens les présenter une fois qu'ils sont finis sur scène, et ça fonctionne bien.
Ok. Oui, il n'y a pas le côté sniper dans la spontanéité tout de suite. Ça permet quand même construire le dessin au fil du temps.
Ouais, ça permet quand même de construire le dessin. Et puis, alors, le côté sniper, alors, c'est rigolo. Je le fais de temps en temps. Il y a certains clients qui veulent avoir des dessins qui arrivent au fil de l'eau. Mais je suis un petit peu méfiant vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, le dessin qui s'affiche et qui vient faire rire la salle, ça peut être assez déstabilisant pour certains intervenants, notamment des intervenants qui sont obligatoirement très habitués à parler devant des grands publics, etc. Et j'ai eu deux, trois fois des retours qui me disaient... On a été mis mal à l'aise par votre... parce qu'il y a eu un dessin, les gens rigolaient, et on ne savait pas pourquoi, parce que nous, on n'avait pas de retour écran, enfin voilà.
Ouais, ça peut desservir un peu le sujet qui est énoncé à ce moment-là aussi.
Ça peut déstabiliser l'intervenant, ça peut desservir un peu le sujet, donc je préfère les présentations où c'est moi qui suis sur scène, et puis voilà, on montre les dessins finalisés, c'est plus... Enfin, je pense que c'est plus efficace pour tout le monde, en fait.
Ok. Tes albums sont ce que je vais appeler de la BD avec des animaux anthropomorphes. C'est pour éviter de caricaturer d'anciens collègues ou il y a une facilité?
Non. Alors, parfois je fais des vraies caricatures quand typiquement quand je suis sur des journées de colloques ou de conférence, qu'il y a je sais pas, un ministre qui vient, un directeur, je ne sais quoi, bah lui, il aura droit à son portrait. Ça, c'est clair. Mais la plupart du temps, je suis sur des personnages, anonymes. Et donc, ça fait un bon moment, bah, depuis des... Ça fait quoi, des 18 ans que j'ai pris l'habitude de ces personnages à tête d'animaux, qui sont très très pratiques, parce qu'ils sont relativement, ils sont à peu près anonymes. Ils sont, ils portent généralement un beau capital de sympathie. Enfin, moi, je dessine beaucoup des lapins, par exemple. Les gens aiment bien les lapins. C'est pratique. Ils sont très expressifs, souvent. C'est plus facile de les faire, de les rendre expressifs. Parce qu'on peut, ben, je sais pas, le lapin, on peut lui mettre les oreilles en arrière quand il va vite, les oreilles qui pendent quand il est triste. Enfin, voilà, c'est des petites astuces de dessin.
Caractérisation.
Qui sont, qui viennent caractériser un peu le personnage. Et puis, en plus, ben, chaque espèce animale porte très facilement certains caractères. Donc, le lapin, on devine qu'il va être plutôt gentil. Par contre, le crocodile, ou un énorme loup, ou l'ours, on devine qu'ils ne vont pas être obligatoirement très, très sympas. Donc, ça permet très vite de faire passer
des messages et des caractérisations
au lecteur du dessin.
Oui, tous les commerciaux qu'on croise dans l'ouvrage pratique. Sont des crocodiles, hein, ça c'est clair.
C'est ça.
Ils sont
dedans. Il y a un loup aussi.
Il y a un loup. On suit les aventures. Il y a aussi des éléphants, c'est pareil pour les. Et c'est très très symbolique.
C'est le patron, c'est le directeur général, donc il est.
Il est tout gentil, tout
il
mou.
Il est puissant, mais un peu vieux, un peu dépassé.
Mais quel animal est vraiment Léonce, du coup, qui est le protagoniste
Alors,
de
la série?
Alors
ça, c'est une question que les gens me posent souvent. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est une espèce de chien. En fait, non, c'est un lion.
C'est un lion. Ah ouais,
c'est
le
un
museau,
lion
du coup.
Ouais, avec un gros museau un peu carré et une crinière très stylisée et un peu pelée à l'arrière de la tête.
Ok.
Parce que c'est un lion un peu fatigué. C'est pas un lion flamboyant. C'est un lion qui porte un peu tout le poids du monde sur ses épaules.
Ouais, le pauvre.
C'est un lion pelé.
Comment tu puises des idées sur alors là celui-ci le dernier Digital Bullshit Officer. Se concentre vraiment sur la partie IT et les nouvelles technologies numériques.
Oui.
C'est pas difficile de se mettre à jour justement pour avoir de nouvelles idées à chaque fois sur un milieu qui est quand même en mouvement très rapide en ce moment.
Alors, sur Digital Bullshit Officer, moi j'ai fait une série qui est portée de manière assez générale sur le management et tous ces sujets-là, qui s'appelle Chief Bullshit Officer. Il y a 3 tomes qui sont sortis. Et en fait, en parallèle, j'avais toute une série d'histoires qui étaient un peu plus orientées IT, effectivement. Mais que j'avais pas voulu mettre dans Chief Bullshit Officer parce que je me disais, c'est pas assez grand public.
C'est très spécifique.
Et donc, du coup, j'avais cette envie de sortir un recueil un petit peu plus spécifique avec ces histoires vraiment plus centrées sur les déboires d'un service IT et puis sur toute cette civilisation digitale merveilleuse dans laquelle nous baignons de plus en plus. Donc là, c'est une espèce de spin-off, en fait, en quelque sorte, avec les mêmes personnages.
Ben oui, ça se passe aux mêmes endroits, techniquement.
Ouais, ouais. Oui, c'est dans le même endroit non identifié, dans une boîte parfaitement anonyme.
Mais on peut avoir des ressemblances
après,
avec des choses connues.
C'est ça, exactement. Et après, pour répondre à ta question sur trouver l'inspiration, c'est pas toujours évident, effectivement, de se tenir au courant. Moi, j'ai la chance, effectivement, avec toutes ces séminaires d'entreprise, ces colloques, ces conférences, d'avoir le moyen de me tenir un petit peu au courant quand même de la vie des entreprises et des administrations. Parce que c'est des moments généralement très intenses où ils vont présenter où est-ce qu'on en est de notre stratégie, c'est quoi les grands sujets pour l'an prochain, etc. Donc moi, ça me donne quand même un niveau d'information pour m'alimenter. Donc c'est vraiment là que je me fais mes picousses de rappel. Mais c'est vrai que ça va vite. Ça va très vite. Donc j'essaie d'en parler un peu avec mes copains qui bossent dans les différentes boîtes. J'essaie de me tenir au courant. Mais suivre l'actualité sur l'IA, par exemple, faudrait que j'y passe mes journées, quoi. Donc c'est
ouais, ça reste chaud.
Après, je suis sur un métier où j'ai pas non plus besoin d'être à la à la pointe, parce que si je fais des blagues qui me font, qui concernent vraiment les derniers développements hyper pointus, bah, ça va faire rire 13 personnes et demie, et je vais pas pouvoir vraiment en faire une BD qui va rencontrer son public. Donc, il faut que je trouve le juste, une espèce de juste milieu entre être au courant et pas non plus être trop en pointe.
Ok. Le public, justement, c'est presque que un public d'entreprise, d'initiés ou de gens qui vont avoir ce niveau de spécificité bureau-service ou les gens du quotidien, tu penses qu'ils peuvent trouver ton album, tes albums accessibles ?
Alors, moi, mon public, alors j'ai pas d'études détaillées sur les gens qui lisent les BD, malheureusement. Ce dont je peux parler, c'est les gens que je rencontre quand je fais des séances de dédicace. Alors, c'est, il y a un petit peu un biais parce que, voilà, c'est des gens qui sont déplacés pour venir à une dédicace, donc c'est les plus motivés d'entre eux.
Oui.
Et, alors, je dirais qu'à, si je veux être honnête, à 75-80%, c'est quand même du cadre d'entreprise, public ou privé, hein, ça, il y a vraiment les deux. Il y a beaucoup plus de gens du public que ce que je pensais, d'ailleurs.
D'accord.
Mais voilà, on est quand même sur du cadre, voilà, plus ou moins expérimenté, mais généralement plus de 35 ans.
Ok, quand même la cible, en fait, de l'album, quoi.
Enfin, oui, complètement. Ils se retrouvent dedans. Et bon, en vrai, c'est quand même un peu pour eux que, un petit peu pour eux que j'écris. Mais voilà, il y a aussi des plus jeunes. Il y a aussi des gens qui... Il y a des très jeunes qui achètent des bouquins pour leur papa ou leur maman.
Ouais, ça va être très cool.
Franchement, il y a les dédicaces, c'est génial. T'as toujours des rencontres. Il y a toujours un côté très inattendu dans les séances de dédicaces, et c'est un des grands plaisirs, justement. Et en plus, moi, j'aime bien prendre un peu mon temps pour les dédicaces, donc c'est l'occasion de parler avec les gens, souvent.
Moi, c'est un des rares moments où l'échange est possible.
C'est à peu près le seul, en fait. Je suis avec l'autre, c'est vrai que, l'autre face de la médaille, on va dire, le revers de la médaille, pardon, c'est le dessinateur de BD, c'est un job très solitaire, en fait, quand même.
Oui, quand même.
Donc, t'es pas en face de... Bah, tes lecteurs, tu les rencontres à travers le dessin que tu leur envoies. Donc voilà, il y a les séances de... Auparavant, il n'y avait que les séances de dédicace, et maintenant, il y a les réseaux sociaux aussi pour échanger. Donc, ça,
ouais, j'allais y venir, justement, tu es très présent... Je t'ai vu très présent sur LinkedIn, par exemple, qui est plutôt un réseau pro. J'imagine que tu dois être présent aussi sur Insta, sur peut-être Facebook aussi.
Non.
Même pas ?
Non. Okay. Non. Non, alors moi, je suis très présent sur LinkedIn parce que, vu mon sujet, vu mon lectorat, c'est...
C'est là où l'impact est le plus fort.
Complètement pertinent. Et puis, je trouve que c'est un réseau social... Il y a beaucoup d'effets d'affichage. Bon, parfois, il y a pas mal de contenus qui sont un peu barbants. Ça, c'est clair. Mais après, les gens sont sous leur vraie identité. Mm-hmm. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'anonymat, ça permet quand même on reste sur des échanges qui sont quand même... qui peuvent être un peu bullshit parfois, mais qui sont quand même plutôt très bienveillants, quoi. Donc, ça reste... Il n'y a pas de phénomène de troll ou très peu encore sur LinkedIn. Moi, j'ai un petit peu de mal. Je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Par ailleurs, c'est pour ça que j'avais quitté Insta et j'ai quitté Facebook également. Et j'ai jamais voulu mettre les pieds sur TikTok.
Ouais, j'imagine.
Parce que je n'aimais pas trop ce que ça proposait globalement comme modèle de société. Mais bon, là, je suis en train de me dire de m'auto-mettre des coups de pied aux fesses pour me dire il faut quand même que tu retournes.
Peut-être faire tourner.
Parce que c'est là que les choses se passent quand même en grande partie. Donc, je planifie d'y retourner.
Ok, voilà. Surveiller le réseau. Tu prépublies très régulièrement sur LinkedIn, soit des cases isolées, soit des gags en carrousel, si j'utilise le bon terme, sur LinkedIn.
C'est ça.
J'imagine que ça fait un effet de teasing, mais t'as pas l'impression que les gens ils vont lire l'album avant même de l'avoir eu dans les mains ?
C'est un des problèmes. Oui. J'ai pas trouvé la réponse. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. Mais ouais, voilà, moi, en fait, il y a deux choses. Il y a un aspect qui est purement personnel et égoïste, je vais dire, dans cette communication. C'est juste qu'envie de, moi, j'ai envie de partager mes dessins avec des gens. Et ça me fait plaisir de les partager. Il n'y a pas de calcul mercantile ou quoi. D'ailleurs, voilà, j'ai juste envie de proposer ces dessins et puis que ça fasse sourire ou rire un petit peu les gens. Et j'ai très souvent des gens qui me disent, mais c'est tellement bien que vous nous publiez un dessin par jour. Moi, ça me fait rire le matin. Voilà, je le regarde dans les transports en allant au boulot. Je le regarde au petit-déj. Je publie le matin. Et les gens sont voilà sont hyper contents de ça et ça me moi ça me voilà ça me fait bêtement plaisir. Et bien. Après il y a la partie plus professionnelle de se dire bon bah voilà c'est du teasing effectivement mon but c'est quand même aussi derrière qu'à un moment ça se ça se rentabilise cette histoire et que les gens achètent mes BD. Donc voilà je publie pas tout sur les réseaux. Du,
oui il y a des exclus qui sont que pour l'album.
Ah bah oui oui bien sûr.
Ah, okay.
Chaque fois. Mais je sais pas, je dois publier, oui, on va dire un tiers à peu près de, des contenus à chaque fois. Après, c'est des gros albums, il y a quand même plus de 100 pages à chaque fois, donc voilà, il y a beaucoup de matière.
Ouais, là, le dernier, il fait 135, 130.
Ouais, ça doit être ça, c'est un peu plus de 130. Et il y en a un, le plus gros que j'ai fait, c'était le dictionnaire, là, dans, l'an dernier, en 2025.
Le Full Corporate Bullshit, c'est ça?
Full Corporate Bullshit, voilà. Donc, le grand dictionnaire illustré de l'entreprise qui fait, je sais plus, il y avait 200 entrées. Donc, avec à chaque fois 2 pages. Donc, ça fait, ouais, voilà, ça y est, plus de 400 pages.
Ça fait plus de 400 pages.
OK. Ouais. Et là, ce qui était top, c'est qu'il y avait à la fois le texte et le dessin à partager. Et je me suis éclaté sur les deux aussi.
OK. En produit. Ah, c'est le, ouais, puis ça devait être un sacré travail dessus.
Ouais, beaucoup plus que ce que je pensais. J'en étais grave à la bourre même.
En autre produit hors album, il y a un Bullshit Tarot. Plus des illustrations façon format tarot, tarot de Marseille, j'imagine.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est le Bullshit Tarot qui est mon projet le plus what the fuck ever.
Et puis, il y a la grande
juste
carte.
Juste pour rire.
Ouais, juste pour rire, c'était juste pour se faire plaisir.
Bah, ouais, alors après, c'est un vrai jeu de tarot, donc je me suis quand même... Enfin, ça permet déjà de jouer au tarot, c'est quand même très bien. Et en plus, il sert de tarot divinatoire, inspiré du tarot de Marseille, mais en version vraiment pour rigoler, donc toujours dans le monde du travail. Et donc je me suis quand même tartiné des explications loufoques pour chaque carte dans le livret. Donc c'est... Il y a de quoi...
Oui, il y avait du taf.
Ouais. Ouais. Et puis effectivement, j'ai fait des cartes récemment. Donc j'ai 2 cartes qui sont disponibles en format poster. Il y en a une qui est la carte du Bullshit Land et l'autre la carte du Digitalistan qui vient de sortir cette année en juin.
Ok. Et ça, on peut les commander directement sur ton site. J'imagine qu'on les retrouve en librairie.
Sur mon site ou sur le site de l'éditeur. En librairie, c'est plus compliqué la vente de posters. Donc
mais ouais,
les commander en ligne.
Je vois bien. Donc, Digital Bullshit Officer, c'est le dernier qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a des projets à suivre dont tu peux déjà parler?
Alors, oui, il va y avoir un livre sur les... alors là, on va sortir un petit peu du sujet de l'entreprise, justement.
Ok.
Il va y avoir un livre sur les biais cognitifs qui va sortir, donc sur la prise de décision et les biais cognitifs. C'est un livre que je réalise en collaboration avec Olivier Ciboni, qui est un maître sociologue, psychologue et conférencier sur les biais cognitifs.
Ok.
Donc là, c'est une BD qui va sortir à la rentrée 2027 à peu près.
Il faudra qu'on
et j'en prenne envisage, rendez-vous. Bah ouais. Et donc c'est vraiment orienté très prise de décision et c'est un petit peu plus, donc il y a des éléments humoristiques mais c'est un plus pédagogique.
Okay.
Et puis je commence à préparer un autre bouquin vraiment humoristique celui-ci, mais sur la vie privée de mes personnages. Donc ça s'appellera Chief Family Officer.
Ok, l'envers du décor quoi.
Voilà, c'est l'autre moitié de leur vie. Et donc là, bah, c'est inspiré non pas de la vie professionnelle, mais plutôt des enfants, la vie de couple, s'installer dans une maison, élever un chien, enfin je n'ai pas de sujet tout à fait assez perso.
Je vois bien. Eh ben, on surveillera ça. Si les gens veulent du coup surveiller toutes tes actualités, réseaux sociaux, donc on l'a dit plutôt LinkedIn pour l'instant, oui. Surveiller Facebook, Insta, peut-être que ça reviendra. Oui. Il y a un site internet dont je n'ai pas retenu l'adresse.
C'est fixe-dessinateur.com.
Ok.
Fixe-dessinateur.com. Et voilà, typiquement, j'ai un onglet portfolio, il y a plein de dessins dessus.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, alors que ce soit sur le réseau ou même prochainement des festivals que tu vas faire?
Un festival. Bon, le seul sur lequel j'ai de la visibilité, c'est à Chalon-sur-Saône en novembre. Donc tu vois,
c'est pas tout de suite.
Mais non, les réseaux sociaux, c'est très bien.
Ok.
LinkedIn ou le site Fixe-dessinateur.
Parfait. On arrive à la toute fin de l'interview. J'ai une mission qui est sans doute la plus difficile que je propose aux gens que j'interview. C'est si tu devais pitcher en vraiment quelques mots ton album pour que les gens l'achètent. Ce serait quoi?
D'accord. Une plongée humoristique dans les coulisses affreuses et absolument absurdes de nos belles civilisations digitales. Bienvenue au service informatique.
Eh ben, c'est parfait.
Ça te Merci. Va, comme un pro?
Ah, ben, moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Je ne change jamais les mots des gens. Hein. C'est leurs mots. Écoute, merci beaucoup, Fixe, pour cette interview. Je rappelle que l'album est disponible chez Diaténo. Et qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Voilà. Donc un bel album.
Les bouquins sont disponibles chez les
libraires, ouais.
À la FNAC, etc.
Un peu partout. Eh ben, merci beaucoup, Fixe. Et puis, on se retrouve lors de la prochaine publication.
Avec plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée, à bientôt.
Au revoir.
Hop, c'était plutôt pas mal tout ça. Merci à Fixe pour son interview. On va se refaire une petite pause musicale. Là, je vous ai prévu un truc un peu plus standard. Je vous ai prévu le dernier morceau de Jane avec Kill It With The Beat. Et puis, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
To a new era, feeling strong like Athena. Give me back my tiara, keep dancing on, the world is mine. Hips don't lie like Shakira, get this shit done like a pussy mama. They try to cool me down, but she hot like Cholula. I'll make you feel on fire, see they drool like hyenas. Lay back, I'm a giver, sorry dude, she's on my back. I can feel my body, I think I'm on a trance. Coming to my high life, I'm dancing in the breaking off the walls, I keep shutting off the rules. See the music is blowing, but the lover goes. Like Akira, I'm lying out of the arena. Kiri bang, do not enter, cause I'm the one she's looking at. She's strong, plus sativa. You can't handle a diva. Lay back, I'm a giver. Wait, hold my tiara. I can feel my body, I think I'm on a trance. Coming to my high life, I'm dancing in the flesh. Breaking off the walls, I keep sweating off the rules. See the music is blowing, where the lover goes.
101.5 FM.
Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous venez d'entendre Jane avec Kill It With The Beat, son dernier morceau. Et on va repartir dans Rock'n'Roll avec Bruno, qui nous parle de quoi ? Tu nous parles de quoi, Bruno ?
Je vais vous parler de zombies, parce que du coup, je trouve que ce soir, on est très thématique. Hein. On parle de zombies, on parle de graphisme animalier. Eh ben, allons-y. Donc, je vais vous parler des quatre reliques du Rock'n'Roll.
Hell yeah.
Bon allez, je vais même tenter une accroche racoleuse, putaclic, diraient les youtubeurs. Et si The Zombies étaient les motorettes de la BD Rock.
Ok. Donc,
parce qu'il y a quand même un gros point commun, c'est que les années passent, mais à chaque nouvel album, on n'est pas surpris et on n'est pas déçu. Bon, j'aurais pu dire ça aussi de ACDC. Donc, avec ce tome 3 qui narre les nouvelles aventures glauques et sanguinolentes des quatre membres du groupe de rock le plus gore en activité, on retrouve ce qui fait le piment des précédents opus, sa charque, les sagiques, la longueur de planche, tout en explorant les tréfonds les plus pestilentiels des clichés du rock et des films d'horreur de série Z. Sans temps mort, juste quelques légères baisses de tempo pour reposer le lecteur avant de relancer la machine. L'objectif n'est pas de développer une intrigue complexe ou sinueuse, mais d'aller droit au but avec un postulat simple et efficace. Déborah, Johnny, Hank et Didi. Alors, pour ceux qui ont vu la référence, Johnny et Didi, c'est une grosse allusion aux Ramones. Doivent chacun retrouver l'une des quatre reliques du rock'n'roll, dispersées dans diverses contrées reculées des States. Je ne vous dis pas quelles sont ces reliques. Vous découvrirez l'album. Et tout ça, c'est pour sauver la planète, attention.
Ah oui.
Car celle-ci se porte très mal, dévastée par le conflit qui oppose d'un côté chrétien hystérique et de l'autre turiféraire du rock'n'roll. On n'a aucun doute sur la réussite de l'entreprise, car vos zombies sont increvables et entièrement dévoués à la cause sacrée du binaire primaire. La fin complètement délirante et absurde, et les pylônes mégalos restent dans le même registre, foutraque et décalé jusqu'au bout. Au passage, les héros auront côtoyé quelques personnages improbables et hauts en couleur, tels qu'un gorille rose, une rombière nymphomane ou un Mexicain fan de fromage affiné. On vous aura prévenu. Voilà.
Particulier.
C'est sobre et de mauvais goût. Comme le dit le sorcier vaudou croisé par Didi, c'est ça qui est bien avec les zombies, ils sont complètement cons. Et c'est ce qu'on adore à chaque fois, savourer l'humeur noire totalement premier degré et le foisonnement de clins d'œil à l'imagerie et à l'histoire du rock. Et s'en mettre plein les mirettes avec les dessins flamboyants de Julien Solé. Là, il faut vraiment dire que ça pète à toutes les planches, c'est impressionnant. Je trouve que c'est un excellent grand dessinateur. Fils de Monsieur Jean quand même, hein,
quand même.
Du même nom. Comme on s'en mettrait plein les esgourdes avec les titres de Motorhead... car j'ai de la suite dans les idées. À noter tout de même qu'il y a eu un changement de line-up, puisque Arnaud Le Gouefleck a succédé à Yann Lindingre au scénario et au dialogue, sans que cela change l'esprit de la franchise. Le cahier des charges est parfaitement respecté et le dosage de ce cocktail de sexe, eh ouais, il y en a, drug, jusqu'il faut, et rock'n'roll, fonctionne toujours aussi bien. Pour être complet, il faut préciser que les coupables ont même décidé d'aller plus loin dans le délire en donnant vie, si l'on peut dire, à la musique crypto-rock des Zombies. Une campagne de crowdfunding rondement menée a permis de financer la création d'un 45 tours, intitulé « La place du mort », bah voyons, interprété entre autres par les auteurs. Il faut savoir que Julien Solé, il est bassiste. Hein. La boucle est bouclée. Désormais, il ne reste plus qu'à retourner sous terre, au frais, en attendant le tome 4. Donc, pour ceux qui connaissent pas les Zombies, donc c'est ce groupe de quatre rockers qui ont toutes des têtes de zombies, qui sont des morts vivants et qui font du rock. Je sais pas comment on pourrait définir un peu le rock si on qui joue. Bon, c'est très influencé par une sorte de groupe de rock punk garage. Un peu cryptique, un peu comme les Cramps par exemple, mais il y a plein d'autres influences en fait. Et d'ailleurs, les auteurs s'amusent à en mettre plein dans le, comme je l'ai dit dans la BD. Donc parce que là, on a
jusque dans les titres des chapitres.
Oui, ah bah absolument, complètement. Les titres des chapitres sont comme ça et il y a vraiment de grosses références. Voilà, donc c'est paru chez Fugue Glaciale. Je sais plus quand est-ce que c'est paru. Je crois que c'est paru en juin de. Non, c'est paru le 1er juillet 2026. Et par contre, je n'ai pas noté le prix et le nombre de planches, mais bon.
Alors, le prix, on est sur un code GB60. Non, mais je te laisse voir.
Mais c'est pas une grosse BD.
Et hein, 56 pages.
Voilà. Et 56 pages. Voilà. Donc, c'est pas de la BD, entre guillemets, à l'ancienne, si l'on peut dire, à ce niveau-là. Toutes les gros pavés qu'on voit maintenant. Donc ouais, c'est un bonheur purement jouissif, mais c'est effectivement pas à mettre entre toutes les mains.
Tout à fait.
Voilà, c'est pas tout public, mais c'est vraiment excellent comme d'habitude.
Eh bien, merci Bruno. Eh bien moi, vu qu'on fait des enchaînements absolument fabuleux, j'enchaîne avec Des zombies dans le rétro, publié chez Ankama, de Giulio Ferrara et Niccolo Testi. Une BD un peu barrée, là aussi à réserver à un public averti, puisqu'on va y suivre quatre amis qui ne se sont pas vus depuis un moment et qui décident d'aller faire un petit week-end pépouze entre amis dans une vieille cabane qui a été abandonnée par un tonton de l'un d'entre eux. On a celui qui est le plus sage, on a celui qui est le commercial requin, on a celui qui est prof et qui se fait un peu bouffer par ses élèves, et puis on a l'autre, le dernier, qui vit toujours dans la cave de sa maman, avec sa maman qui lui donne des autorisations de sortir. Et ces quatre amis qui ne se sont pas vus depuis un moment, eh ben, ils vont partir en week-end. Manque de peau, le week-end va passer du tranquille, chill, un peu ennuyant, au complètement débile survivaliste, lorsque survint des zombies. Zombies qui ne sont peut-être pas là complètement par hasard, mais peut-être aussi dû à l'absorption de substances que les quatre amis ont bien entendu pris la peine d'emmener. Mais c'est l'occasion aussi pour ces quatre amis et pour ce moment de survie d'aller de se remémorer des moments en fait de leur jeunesse et de replonger un petit peu en enfance, de faire un retour, ce coup d'œil dans le rétro promis par la couverture, et de se rendre compte pourquoi ils en sont là et peut-être d'évoluer, de devenir de nouveaux adultes un peu plus responsables, parce que soyons honnêtes, c'est pas vraiment le cas là maintenant. L'aventure, elle est complètement barrée, puisque les personnages sous substance ont tendance à avoir des comportements un peu particuliers. Mention spéciale au commercial hyper musclé qui passera le reste de l'album en slip. Et ils ont des comportements vis-à-vis des zombies qui ne sont pas des comportements rationnels. Ils vont pas passer leur temps à courir. Ils vont des fois avoir juste envie de mettre des pains dans les dents des zombies quand ils en ont encore. Le graphisme, c'est un graphisme qui est un petit peu barré aussi, avec des couleurs qui pètent. On n'a pas des zombies verdâtres d'habitude. Ils sont violacés, ils sont un peu crado, un peu flippants. Et l'ambiance marche très bien avec des traits très anguleux et les cadrages complètement barrés. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas où la BD m'emmenait. Je me suis laissé porter. Et quand on arrive sur la conclusion un petit peu douce, un petit peu tendre, avec un petit peu de sel par-dessus, eh ben, on se dit qu'on a passé un bon moment et qu'on était content d'y être. Voilà. Une BD bien cool. Des zombies dans le rétro. De Niccolo Testi et Giulio Ferrara. C'est publié aux éditions Ankama, ça vaut un code ANK18. Promis, je mettrai les vrais tarifs à un moment. Et puis, on est sur un nombre de pages que je n'ai plus non plus et qui sont pas notées. Mais voilà, c'est quand même assez épais et c'est plutôt intéressant. Enfin, c'était très intéressant. Il y a pas à lire. Voilà. Donc, Des zombies dans le rétro. C'était un service de presse comme tous les albums que j'ai présentés aujourd'hui. Bruno, c'est les albums, c'était les tiens, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Eh ben, on est pas mal comme ça. On a parlé. Je crois qu'on a fait les meilleurs enchaînements de notre life.
Ah là, c'est la folie là. Entre le graphisme animalier et les zombies, on était complètement dans une thématique cohérente.
Eh ben, c'est parfait. On va en profiter pour se dire au revoir pour cette saison. On se retrouve en septembre 2026 pour enchaîner la saison 2026-2027. Mes camarades seront déjà ont déjà annoncé qu'ils seraient de nouveau avec moi. Absolument. Ce qui est très cool. Voilà, on essaye de se caler pour vous proposer de nouvelles choses. On espère que vous allez passer de bonnes vacances. Et puis, on va en profiter nous, pour avoir de nouvelles lectures. Bonnes vacances Florence. Bonnes vacances Bruno.
Bonnes vacances Florence et Seb.
Merci, bonnes vacances à vous.
Et puis, chers auditeurs, on vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
Everything went back to how it was, but nothing ever felt right. I was so tired, and I should have closed my
www.radio-g.fr. Radio G.